Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous avec les podcasts de la rédaction. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la saga Metroid à l'occasion de la sortie du nouveau Metroid Prime 3 Corruption, prévu pour le 26 octobre prochain, donc dans quelques jours. Et pour ça, eh bien, Julo est avec nous. Comment ça va, Julo?
Mais très bien, et toi-même?
Bah écoute, bien, j'ai froid, j'ai très froid, j'ai mis un gros pull.
On va se réchauffer.
Voilà. Angel aussi, ça va bien, Angel?
Ça va.
Toute sobriété.
Voilà, exactement.
Tout à fait, surtout avec ce que tu portes dans la main. Non, dans l'autre main. Voilà, une vous bière, n'avez pas les images.
Une bière et un micro.
Oh là là.
Raon aussi qui est avec nous, Raon qui passe en mode ingénieur du son, puisque CAF malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui.
Voilà, ingénieur level 0.
Level 1 déjà, level 1, ne minimise pas la performance.
Oh là là.
Ça va très bien se passer. Alors comme je vous le disais, nous allons donc parler de la saga Metroid, une série qui a commencé en 1986. Qui fêtait donc ses 20 ans l'année dernière, en 2006, à l'occasion de la sortie de Metroid Prime Hunters sur Nintendo DS, mais nous allons revenir dessus. Alors pour faire un premier point, eh bien, tout d'abord, nous allons partir à la genèse de cette série, série dirigée à la base par Gunpei Yokoi, grand créateur chez Nintendo, des Game & Watch, de la Game Boy,
et
du Virtual Boy aussi, hein, donc des hauts et des bas.
Enfin, et un bas,
oui. Plutôt de qualité, hein, Gunpei Yokoi, qui nous a quittés en 97, malheureusement, suite à un accident de voiture, malheureux. À l'époque, il dirigeait l'unité de recherche et développement numéro 1 chez Nintendo. Et ils avaient donc
un paquet de gros titres.
Ah ouais, ils ont beaucoup de belles choses. Et donc, ils ont commencé à travailler sur Metroid. Metroid, qui est sorti donc au Japon en 1986. À l'époque, pas directement sur la NES, donc la Famicom là-bas, mais plutôt sur la Famicom Disk System, qui était une sorte de add-on qui se branchait sous la console et qui lisait des disques. Il faudra attendre...
Des disquettes.
Des sortes de disquettes, voilà, tout à fait. Il faudra attendre 87, avec une sortie aux États-Unis de ce premier Metroid, sur NES, cette fois-ci, en cartouche. Alors, c'est là que ça a posé un petit peu toutes les bases de la série, les fondamentaux, comme on dit en sport. Avec le personnage bien évidemment Samus Aran qui lorsqu'on commençait à jouer et puis il fallait aller jusqu'à la toute fin pour se rendre compte que c'était une femme, était en fait l'une des toutes premières héroïnes du jeu vidéo et surtout femme forte puisque contrairement aux princesses Peach, Zelda et compagnie, eh bien il suffisait pas d'aller la sauver, c'était vraiment elle qu'on dirigeait. Que vous vous rappelez un petit peu de cette époque là et de l'impact qu'a eu ce jeu sur les joueurs?
Bon, non, pas particulièrement, parce que à cette époque-là, Metroid ne m'intéressait pas des masses. Mmh. Donc, moi, sur NES, je jouais pas du tout à ça. Quoi.
D'accord, bon.
Mais bon.
Les autres?
Non, il faut avouer que moi également, j'ai un peu, je dois l'avouer, zappé un peu Metroid à l'époque. Ah. Enfin, j'y avais quand même joué, bien évidemment, mais ça faisait pas partie de mes jeux de chevet.
Voilà. Alors peut-être un peu plus Angel.
Non, moi j'avais pas passé le premier niveau.
Très bien.
Voilà, bon, que des profanes, c'est super. La
alors, on va vous resituer un petit peu parce que on disait premier jeu, donc création de toute la mythologie Metroid. Metroid, déjà ce premier mot Metroid, eh bien en fait, c'est un parasite xénomorphe. Et là, généralement, Raon qui connaît le vocabulaire français, xénomorphe, plusieurs formes, mutant, enfin, qui peut s'adapter à son environnement.
Il me semble que xéno, ça veut dire bois ou.
C'est plutôt ce qui est différent, non?
Oui,
hein,
pas, genre, comme xénophobie.
Exactement.
Exemple. Voilà.
Qui n'en est pas des mots du latin.
Mon cher Julien.
Alors voilà, donc le Metroid était donc un parasite xénomorphe qui absorbe l'énergie des êtres vivants. Et du coup, en fait, il est originaire de la planète SR388. Belle planète, hein. Rendons hommage à toutes les SR que nous avons croisées dans notre vie.
Oh, quelle classe! Parce que SR, ça veut dire secrétaire de rédaction, voilà. Donc, voilà, pour ceux qui ne le savaient pas.
Certaines SR étaient elles-mêmes xénomorphes, hein, mais on ne vous dira pas qui. Et donc, il fallait donc Samus Aran, qui était donc une chasseuse de primes intergalactique, partait à l'assaut.
Sauf qu'on ne savait pas au début.
Ça, on ne le savait pas. Hein. C'était un chasseur de primes, enfin, engoncé dans son attirail, pour aller lutter justement contre ce Parasite. Elle rencontrait bien évidemment Mother Brain, qui était l'ennemi, le boss central de l'aventure. Alors pour la faire simple, hein, probablement que vous vous rappelez à peu près à quoi il ressemble.
Tout à fait.
Angel qui rappelle
une petite anecdote. Ça me fait marrer parce que là, dit comme ça, ça ressemble à un super scénar de série Z.
Ah, mais complètement.
Mais
complètement. Enfin, à l'époque, les jeux vidéo, et puis même encore, malheureusement, tristement, encore aujourd'hui, ne brillaient pas par la qualité incroyable de leur scénario. Donc ce Mother Brain ressemblait à un cerveau à un œil. Voilà, il était dirigé par les pirates. Enfin bon, c'était un petit peu surréaliste.
Les pirates de l'espace, oui.
Voilà, les pirates de l'espace.
C'est très important, les pirates de l'espace.
Exactement. Comme Sex Appeal.
Je suis en train d'imaginer tout ça en film.
Justement, on reviendra.
Non, mais en vrai, film cheap, c'est-à-dire oui. avec des monstres en latex.
Oui, oui. Bah,
en live action movie.
Et en live action movie, justement, il y avait un film qui était prévu l'année dernière pour justement célébrer les 20 ans de la série. Film qui a été annulé. Hein.
C'est bien dommage.
Voilà, c'est bien dommage. Mais alors, justement, je reviens rapidement sur Mother Brain. Est-ce que vous savez d'où vient à la base le nom de Mother Brain?
Voilà. C'est Yamauchi en fait.
Oui, voilà.
Voilà, effectivement. En fait, dans les années 70, à l'époque où Nintendo n'était pas encore implanté dans l'industrie du jeu vidéo, et ben ses collègues et amis, néanmoins, de chez Nintendo le surnommaient le Mother Brain. Donc un mec un peu relou, tentaculaire, qui gérait un petit peu tout d'une main de fer. Et du coup, lorsque Gunpei Yokoi a rédigé un peu la charte de Metroid, il s'est dit
le boss final, ce sera Yamauchi.
Ce sera Yamauchi, c'est un petit peu ça, le Mother Brain. Donc c'est déjà à l'époque qu'on retrouvait un petit peu le power suit qui équipe Samus Aran, donc cette espèce d'armure qui lui permet de d'équiper tout son équipement avec le power beam, espèce de bras laser un peu à la Cobra qui lui permet de tirer. Et puis voilà, hein, à peu près ce qu'on peut dire sur ce jeu en 86 qui effectivement était déjà c'était un bon jeu de plateforme.
Il y avait déjà beaucoup d'éléments de puzzle aussi.
Complètement.
Avec presque quelque chose qui est une mécanique qu'on retrouve un peu dans le Zelda, c'est-à-dire que tu devais acquérir certains types d'armes, certaines capacités pour pouvoir avancer, quoi.
Tout à fait, j'aime bien laisser un petit blanc à chaque fois. Vous savez quoi, on va le faire en fait dans l'ordre chronologique de la saga. On va les remonter, donc vous allez voir, pas forcément par ordre chronologique en termes de sortie de jeu, mais plutôt de lien logique dans le scénario de toute la série. Donc le premier jeu, c'est donc ce Metroid en 86, dont il y a eu un remake hein, en 2004 qui s'appelait Metroid Zero Mission. Mission même, si je veux le faire à l'anglaise. Remake qui était sorti sur Game Boy Advance à l'époque, donc qui reprenait la trame de Metroid avec des graphismes un petit peu surboostés, 2D. Parce que oui, bon, ça, on l'a pas dit, mais enfin, bien évidemment que sur la NES à l'époque c'était en 2D. Hein. Vous avez bien compris. D'ailleurs, en sachant que dans ce Metroid Zero Mission, on pouvait débloquer le jeu original, donc la version NES de l'époque.
Incroyable.
Voilà, c'est fantastique.
On faisait déjà de la récupération à l'époque.
Tout
en fait.
À fait.
Ouais, sauf qu'on les payait pas comme sur Virtual Console.
Exactement.
Enfin, pas pareil.
Oh, oui, bon. On passe désormais en 2002. Alors, puisque je vous dis, là, on va le suivre de manière chronologique par rapport au scénario de Metroid. Alors, en 2002, c'est Metroid Prime qui sort sur GameCube. Alors là, premier changement, ce n'est plus Nintendo qui s'occupe directement du titre, mais le studio Retro Studios, studio américain. Est-ce que vous vous rappelez un peu de cette période où on n'entendait plus parler de Metroid depuis très longtemps, mais il était vraiment demandé par les fans, surtout aux États-Unis?
Oui, très bien. Ouais. Et donc à ce moment-là, ça avait surpris pas mal de monde qu'on en fasse un FPS, ou tout du moins
FPA.
Un FPA, voilà.
First Person Adventure.
Action.
Non, Adventure, justement.
Adventure. Erreur que déjà commise dans le podcast.
Tout à fait, on s'est fait taper sur les doigts.
Ah oui, mais du coup, on confond à chaque fois.
Voilà.
Tu confonds.
Oui, ok.
Et finalement, ils avaient réussi à faire quelque chose qui se tenait même super bien et qui reprenait vraiment toutes les bases des jeux 2D, quoi. C'est-à-dire, bon, c'était le même fonctionnement avec la récupération d'armes, etc. Tu revenais dans des niveaux d'avant pour avec tes nouvelles armes pour faire de nouveaux trucs, etc.
Quelque chose d'essentiel aussi, c'est qu'on commençait complètement équipé et qu'au bout de 15 minutes de jeu, de la première mission, on
perdait tout
de tout son équipement
et fallait le récupérer après au fur et à mesure.
Alors, Angel.
Non, mais non, c'est juste parce que je l'avais testé à l'époque, donc lui, je le connais bien. Et non, il y avait tout ça, et puis il y avait un côté où il creusait un peu la mythologie du truc, enfin la mythologie. tu débarquais sur la planète et t'en apprenais un peu plus sur ce qui se passait en scannant, en scannant tous les décors. Donc, enfin, c'était pas juste, notamment si tu tires, quoi. Si tu voulais creuser le jeu et apprendre tout ce qui s'était passé sur la planète et les mythologies, il fallait passer le scan un peu partout sur les pierres et tout ça.
Ouais, bah, c'était une grosse feature du jeu à l'époque. C'est toujours, bah, d'ailleurs, même sur Wii, ça va être la même chose.
Mine de rien, si tu veux vraiment faire le truc à fond, je pense que ça multiplie la durée de jeu par deux.
Ouais, parce que tu débloques des trucs et tout. Ouais.
Oui, puis il y avait aussi quelque chose de très important, la Morph Ball, avec l'utilisation de tous ces puzzles 3D, on roulait, donc c'est une espèce de bille.
Quelqu'un veut en parler, Julo? C'est aussi une des spécificités de la série, c'est que, et même dans les Metroid Prime, c'est que en fait, vraiment les niveaux sont construits un peu à l'ancienne, c'est du puzzle un peu partout, à droite à gauche, et se mettre en Morph Ball ou utiliser différentes armes, etc., pour trouver son chemin ou pour débloquer des trucs et tout.
Ouais. C'est très axé sur le level design, quoi.
Ouais.
Le level design de Metroid Prime, par exemple, il est juste fantastique, quoi. Si, voilà, parce que c'est une sorte de jeu de plateforme en 3D qu'on aurait passé à la sauce FPS, avec en plus des mécaniques de jeu d'aventure.
Puis une ambiance très particulière, hein, une bande son vraiment très immersive. Ouais. Justement, on parlait de mythologie un peu avec les personnages, les Chozos. Ouais. On apprend un peu la grandeur et la décadence, l'attaque des pirates de l'espace. J'adore ce terme, les pirates de l'espace, j'ai l'impression de repartir très très loin en arrière.
Et pour l'anecdote, Julo, je ne sais pas si tu te souviens, parce que tu m'avais aidé à prendre le screenshot, dans certaines conditions, tu pouvais voir le visage de Samus.
Ouais, voilà. Ouais, bien sûr.
Donc, quand il y avait, par exemple, de la fumée, quand il y avait un éclair ou un truc comme ça, et que tu étais face à un
tu
mur,
voyais ton propre visage se refléter dans le
Metroid Prime.
Ouais, dans les premiers.
Prime. Je sais, parce que je m'étais fait chier à prendre le screenshot, ça m'avait pris à peu près une
heure. Ouais, on avait galéré pour. Ah, c'est, je m'en souviens, ouais, exact. Tu voulais absolument le prendre en photo, le truc. Alors, on attendait un éclair, tu sais, et on appuyait sur Ctrl S, et puis à chaque fois, on arrivait en retard, etc. On
a fini par prendre les captures à l'époque. Voilà, donc Metroid Prime avait quand même bien marqué son époque, avec justement, on le disait, un level design vraiment original et très très recherché.
Et surtout une très bonne retranscription de ce qu'étaient les épisodes 2D en 3D, quoi, parce que
c'était surprenant pour tous ceux qui s'attendaient à un FPS, on va dire, classique, quoi.
FPS qui finalement a un rythme assez lent, hein, contrairement à Halo, qui est très frénétique.
En termes d'action, c'est lent, et puis tu dois sauter de plateforme en plateforme, tu dois résoudre tous les puzzles, etc. Enfin, c'était surprenant. C'était très bien foutu.
Non, mais c'est très bien foutu. Moi j'en garde un super souvenir, parce que c'était très bien foutu vraiment dans tous les aspects, quoi. Aussi bien dans le gameplay que dans le level design, que graphique, enfin techniquement c'était réussi aussi.
Non, vraiment, et puis Julo, tu parlais des musiques. Les musiques étaient vraiment excellentes dans dans les Metroid Prime, hein.
Mais c'était le genre, c'était le genre de jeu, en fait, avant de voir le résultat sur GameCube, tout le monde était plus ou moins réticent à ce qui passe à la 3D. On avait vu d'autres genres se casser un peu les dents sur leurs premiers épisodes dans cette transition 2D vers la 3D.
Mario, par exemple.
À part Mario, enfin Nintendo avait déjà fait Mario, des transitions qui étaient réussies, mais
les transitions 3D de Nintendo en général ont été excellentes.
Et sur celle-là, il y avait des doutes comme sur les autres. Et à l'arrivée du résultat final, c'était particulièrement surprenant, quoi. C'est un petit peu comme adapter, je sais pas moi, le Seigneur des Anneaux au cinéma. Tu te dis au départ, ça va être un truc hallucinant à faire, ça va être un boulot de monstre.
Et finalement, c'était de la merde.
Non, bien évidemment que non. Sur la même timeline, on va dire, au niveau du scénario, on retrouve un jeu un peu ovni dans la série, c'est le Metroid Prime Pinball, qui était sorti sur DS en 2005. Premier jeu de la Nintendo DS à utiliser le Rumble Pack.
Ils l'ont sorti en Europe il n'y a pas très très longtemps, puisqu'on l'a testé par Gameblog.
Plus de 700 jours après la sortie.
Quasiment
2 ans après.
Mais je pense qu'ils avaient, très sincèrement, ma théorie c'est qu'ils avaient un trou dans le planning et qu'ils ne savaient pas quoi sortir, qu'on se dit, bon voilà, qu'est-ce qu'on fout là-dedans? Bof, on va foutre le Metroid Pinball. Parce que justement, le Rumble Pack, ils sortent le Rumble Pack d'époque, celui qui fournit, parce que bon, la bonne idée quand même, c'est qu'il y a un Rumble Pack qui fournit avec le jeu. Jusque là tout va très bien, hein, sauf que le Rumble Pack en question, il est au format DS, la DS Panzer,
ouais.
pas du tout la Lite. Du coup tu te retrouves avec un Rumble Pack qui dépasse, pas du tout esthétique et tout. Et en plus le jeu est on va dire perfectible, pour être poli.
Ouais, Rumble Pack en plus qui sert à peu près à 4 jeux et demi, hein,
et puis globalement je vois pas trop l'intérêt, quoi. Enfin, il est pas super bien exploité en plus.
Non, c'est enfin bon.
Mais donc c'était
petit,
raté.
Petit jeu, c'était raté, petit jeu petit à côté de la série Metroid.
C'est un jeu pour les GOG, voilà. Et encore.
Bah, et puis c'est un jeu pour vraiment pour les fanatiques de la série, parce que mine de rien, paradoxalement, dans un jeu de flipper, on apprend pas mal de petites choses sur le scénario. On va pas tout vous décrire là parce que c'est vraiment très
dense.
C'est très dense, et puis ça parle vraiment aux fanatiques du jeu avec les noms des planètes de ouf. Enfin bon, c'est pointu, il vaut mieux s'immerger dedans très clairement. Alors, on progresse un petit peu dans la timeline. On arrive avec Metroid Prime Hunters, toujours sur DS, cette fois-ci sorti en 2006, donc qui finalement était un peu le jeu anniversaire des 20 ans de la série. Alors, qui arrivait donc sur portable, 3D, mais c'est pas. Enfin, c'est vraiment le multijoueur qui faisait la force de ce jeu.
Pas seulement, déjà, un peu comme on l'a redécouvert avec la version Wii, la jouabilité était extra, vraiment extra. Quoi. C'était le stylet plus donc, les boutons, la croix, etc.
Ouais.
C'était ultra maniable. On se débrouillait pour viser aussi bien que dans un FPS PC ou presque. Enfin bref, c'était hyper, hyper bien foutu, quoi. Et voilà, quoi, c'était un très bon jeu. Et puis effectivement, il y a le multi.
Il n'avait pas changé en cours de route d'ailleurs, le système, l'ergonomie.
Si, plus ou moins par rapport à. En fait, on se souvient qu'en fait, les DS étaient au départ vendus avec une démo de Metroid.
Et les contrôles n'ont rien à voir entre la démo et le jeu final.
Franchement, je m'en souviens plus si bien que ça, mais voilà.
Rien à voir, si. Il y avait pas mal de choses qu'on retrouvait, mais ça avait été vraiment affiné. C'était plus agréable de tirer. On ouvrait les portes en double cliquant, entre guillemets, avec son stylet.
Tu pouvais tirer aussi en cliquant directement sur l'écran, ou alors passer dans un autre mode et tirer avec la gâchette.
Ouais. Enfin, non, c'était plutôt bien pensé.
Enfin, déjà dès la démo, c'était vraiment sympa à jouer.
La DS était bien exploitée, donc ce qui prouvait dès le départ que les deux écrans, c'était une bonne idée.
C'est clair.
Et puis c'était un bon Metroid, quoi.
C'était un bon Metroid, c'était pas non plus très très beau. Hein. Enfin, on n'est pas habitué à des jeux très très magnifiques.
Pour la DS,
c'était plutôt très réussi, effectivement. Alors, ensuite, c'est Metroid Prime 2 Echoes sur GameCube. Là, cette fois, on repart un petit peu en arrière, on est en 2004. Bon, la suite du premier Metroid. Moins événementiel quelque part, enfin ça a
forcément
pas apporté,
forcément moins surprenant, mais c'était d'une très bonne qualité aussi au niveau gameplay, au niveau
avec un Samus alternatif, un Nemesis Samus en version Black contre qui on se battait, on savait pas d'où il venait, machin, espèce de pouvoir un peu étrange.
Ouais, mais enfin.
Alternance du monde.
Effectivement, la surprise en tout cas était plus là, quoi. Donc on peut dire que c'était une bonne suite, mais ça restait une suite, quoi, sans surprise, sans rien d'étonnant, quoi.
Ouais. Dans ce jeu aussi, on trouvait quand même quelques modes multijoueurs, alors pas online pour la GameCube, mais en écran partagé. Ça restait un petit peu limité quand même. Moi, je me souviens, on se tirait dessus, mais ça perdait. Enfin. Metroid n'est pas un jeu de FPS traditionnel où on va se castagner vraiment dessus. Alors on se tournait au sourd. En plus, il y a le lock automatique. Ce qui fait que dès qu'on approchait son ennemi, bah bing, on le lockait. Enfin, c'était pas. Metroid, c'est pas vraiment comme ça joue, même si la tentative était honorable.
Metroid, voilà, quoi. C'est comme tu dis, c'est une aventure solo, quoi. Ça se base pas du tout sur le multijoueur. Ça l'a jamais été et je pense que ça le sera jamais, quoi. Après tout.
Moi, cela dit,
tant mieux, quoi. Il faut pas partir sur une idée multijoueur juste parce que c'est la mode, quoi. Il faut pas céder à la tentation.
Bah, BioShock le prouve très bien. Hein.
Voilà, exactement. Tant que c'est bien fait,
ça reste un excellent FPS solo.
Exactement.
Voilà.
Et voilà. Bon, là, on rend l'antenne.
Non, c'est pas encore tout à fait fini, puisque bien évidemment, on va faire une sorte de preview du test dans quelques minutes. Justement, normalement, là devrait se glisser Metroid Prime 3 Corruption, qui va sortir donc 26 octobre sur Wii. Mais on passe un petit peu pour revenir, pour conclure le podcast là-dessus. Donc on revient, alors là, bien bien en arrière, puisqu'on repart en 1991, cette fois-ci avec Metroid 2, qui s'appelait pas encore Prime, hein, bien évidemment. Metroid 2, Return of Samus, et cette fois-ci, on était sur Game Boy, la bonne vieille Game Boy, noir et blanc, classicos. Bon jeu, hein, donc retour à la 2D, bien évidemment, qui faisait un petit peu avancer la saga, mais enfin, bon, c'est pas resté non plus dans les annales. C'est ça qui est assez paradoxal, quand même, c'est que Metroid est une série très respectée et respectable, mais qui a jamais vraiment fait des cartons commerciaux surréalistes. C'est pas du tout une série à l'ampleur d'un Mario, d'un Zelda.
Non, et puis finalement, ça a jamais percé. Si encore on y revient, ça a jamais vraiment percé aux yeux du grand public.
Non.
C'est-à-dire vraiment le genre, enfin le Pékin moyen que tu chopes dans la rue. tu lui parles de Metroid, ça lui dira grosso modo pas, enfin, pas ça lui dira chose, pas grand chose. Contrairement à Mario, un Tomb Raider ou je sais pas, enfin, Metroid c'est un succès d'estime, mais c'est un vrai succès d'estime.
C'est un succès aux États-Unis, c'est-à-dire que
ils ont pas fait des fours non plus. C'est pas non plus une catastrophe.
Non, mais c'est la base du succès d'estime, quoi. C'est-à-dire c'est des trucs qui vendent bien, mais sans faire un carton, qui ont toujours de très bonnes reviews, enfin de bonnes critiques. Voilà quoi. Enfin c'est une affaire qui roule, qu'on va dire pour Nintendo, tant mieux. Enfin c'est encore une licence très respectable, une de plus.
Mais d'ailleurs c'est assez paradoxal de voir que le jeu donc est un jeu japonais à la base, hein, mais que depuis la reprise en main des choses par Retro Studio, suite justement un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein, au multiple 3 où tous les journalistes et autres américains, à chaque fois qu'ils voyaient une image de Samus ou quelque chose qui était sous-entendu dessus, criait, bah ça marche bien aux États-Unis, et d'ailleurs les jeux sortent d'abord aux États-Unis et après en Europe et au Japon.
Il y a un truc majeur quoi, quand même, qu'on a vaguement soulevé au début, mais il y a de fortes chances pour que cette série a un statut un peu culte, c'est parce que c'est aussi une des premières avec une héroïne, et qu'au départ on ne le savait pas. Et qu'il fallait terminer le premier jeu pour savoir que Samus était donc une nana, quoi.
Une femme, ouais.
Et mine de rien, il y a quand même des tas de gamers qui ont été vachement marqués par cette image.
Mais d'ailleurs, c'est assez amusant parce que, en fait, s'ils l'ont fait comme ça, c'est que, à l'époque, donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y avait très peu, même pas de héroïnes de jeux vidéo, et que Gunpei Yokoi avait peur pour un jeu d'action de faire incarner, c'était globalement 99% des joueurs à l'époque étaient des mecs, une nana. Alors on leur a mis un personnage avec une grosse armure classe, genre Super Rambo, et sur la toute dernière image donc du générique de fin, et ben le personnage enlevait donc son casque et puis on voyait la chevelure blonde qui arrivait, et puis oh, merde, c'est une meuf. Voilà. Donc effectivement, c'était
ça pour les Américains, c'était chick game.
Exactement.
Donc, c'est devenu un gimmick avec Super Metroid après sur Super NES aussi. Tu peux l'avoir en bikini si tu finis le jeu en moins de 3 heures.
Et bah justement, on y arrive à l'épisode Super Nintendo qui donc lui est sorti en 1994. Alors à l'époque c'était un véritable événement, hein, parce que le jeu commençait à avoir un petit peu de renommée. C'était une très grosse sortie de la part de Nintendo. Il y avait énormément de travail graphique, rotation, zoom à gogo comme la Super Nintendo savait le faire à merveille, avec des personnages, des sprites gigantesques à l'écran. Et c'était d'ailleurs à l'époque la cartouche la plus importante, la plus grosse cartouche de l'époque, avec 24 mégabits. Alors ça parlera pas à beaucoup de personnes, puis alors aujourd'hui c'est complètement has-been de dire ça, mais enfin à l'époque c'était un très 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 gros jeu.
Je crois que la plupart des cartouches de l'époque faisaient maximum 8 mégabits.
Après c'est passé à 16, mais bon, on peut rentrer dans un débat. C'est passé de 8 à 16, ouais. Le 16 c'était la révolution, et après
au moment où Super Metroid est sorti, il n'y avait pas de cartouche qui dépassait les 8 mégabits. Il me semble pas qu'il y en avait. Donc effectivement, c'était quand même un sacré bond en avant pour l'époque, quoi.
Oui, puis ils étaient pas là pour rien. C'est que vraiment techniquement, il y avait les mondes qui tournaient justement. Enfin, on pouvait, les explosions, les missiles étaient super classe. Moi, je me rappelle d'espèces de gros boss qui faisaient vraiment les trois quarts de l'écran.
Et il est sorti la semaine dernière sur Virtual Console, d'ailleurs. Ouais.
Donc bah voilà, vous pouvez ceux qui ont quelques deniers
donner de l'argent à Nintendo, ils en ont besoin.
Si vous y avez pas joué, franchement, c'est moi je trouve l'un des meilleurs épisodes de la série. Alors c'est très difficile de le comparer après avec les Metroid Prime.
Puis c'est lié à l'époque 3D. Aussi, l'époque Super NES. Bon voilà.
Ouais, mais il y avait une grandiose. Super ambiance. C'était vraiment la 2D très aboutie. Hein. Vraiment.
Oui, pour les c'est pour ça qu'on aimait tous la Super NES à l'époque aussi. Qui faisait un putain de carton.
Exactement.
Avec son mode 7 et toutes ces conneries.
Ouais, le fameux mode 7. Donc ça c'est sur Super Nintendo, et puis ensuite 2002, Metroid Fusion qui sortait sur Game Boy Advance et qui clôturait la saga en termes, on va dire, chronologiques de toute la série, voilà, qui a pas laissé un souvenir impérissable non plus, un bon jeu 2D, très bon jeu 2D, des animations super souples, personnages classe, enfin bon, c'était pas non plus, il y avait pas de quoi se taper la tête au plafond, hein, ou contre les murs, ou plein d'autres choses.
Ouais.
En rang, non.
Non.
Bon, pas mieux.
Pas mieux.
Talam, tam, tam, talam, tam. Donc, il est grand temps désormais de parler un peu plus en profondeur de Metroid Prime 3 Corruption qui sort sur Wii là dans quelques jours. Alors, Julo, toi, t'as vraiment eu l'opportunité de pouvoir t'y appesantir un petit peu.
Ouais,
et il y a déjà quelques semaines dans un précédent podcast, tu nous faisais part de tes très bonnes sensations. Alors, est-ce que ça se confirme un peu sur la longueur?
Ouais, ça se confirme complètement, même si effectivement, comme on le disait tout à l'heure, les Metroid sont toujours d'excellente qualité, mais ils sont pas forcément super surprenants. Mm-hmm. Alors bon, effectivement, par rapport aux autres Metroid Prime sur GameCube, on va dire évidemment le principal changement, c'est la jouabilité. Donc avec la Wiimote, ils ont fait un travail encore une fois excellent, quoi. C'est-à-dire que je disais pendant ce dernier podcast où tous les essais qui ont été faits en FPS sur Wii jusqu'à maintenant, ça a été un peu
la merde.
Libre en lot, faut le dire. Et là, la jouabilité est vraiment excellente. On fait exactement ce qu'on veut, etc. Donc le principe de lock total qu'il y avait évidemment sur GameCube, il est plus là, ou alors plus exactement pareil.
Faut maintenant viser.
Non, c'est-à-dire qu'on peut locker un adversaire pour pouvoir, en utilisant gauche et droite, tourner autour en étant face à lui toujours. Mais il faut quand même utiliser la Wiimote pour viser, ce qui n'était pas le cas sur GameCube où tu visais directement en lockant. Donc tout ça, ça fonctionne très bien, ça apporte vraiment des sensations d'immersion excellentes, d'autant que le Nunchuk est mis aussi à contribution. Donc tu l'utilises en fait pour balancer un lasso magnétique. Ouais. Donc en gros, tu fais un mouvement de la main gauche et elle balance avec sa main gauche ce lasso magnétique qui peut choper une porte, qui peut choper le bouclier d'un ennemi que tu peux pas toucher, etc. Qui peut te permettre également de t'accrocher dans des niveaux assez gigantesques.
Je pense que c'est un hommage à Wonder Woman. Désolé.
Certes, non, mais c'est vachement sympa de faire le geste, etc. C'est vachement immersif. On retrouve la même chose avec la Wiimote, donc sur la main droite, avec par exemple les façons d'ouvrir les portes. Donc en gros, c'est des espèces de poignées de porte que tu dois tirer vers toi, tourner, remettre en place, etc.
L'immersion l'a joué vraiment à plein, parce qu'on voit carrément la main de Samus.
Ouais.
Et puis nous, on doit faire le mouvement d'ouverture, de rotation de la porte.
Voilà, et même quand tu es dans ton vaisseau, donc t'as tout le tableau de bord, style 747, tu vois, avec des boutons partout, etc. Et tu peux tout toucher. Donc t'as un bouton pour fermer le hublot, un bouton pour passer dans un mode machin, etc. Pour passer en communication radio et tout. Et donc tu fais tout ça avec la main. Et tu vois la main de Samus qui fait tout elle-même.
Techniquement, donc, en plus, c'est l'un des plus beaux jeux actuellement. Il est vraiment peaufiné. Quoi.
Alors voilà, on verrait un jeu comme ça débarquer sur PS3 ou sur 3.6. Effectivement, on dirait que ça fait tiep.
Ouais.
Cela dit, donc c'est vraiment l'un des plus beaux jeux sur Wii. Ouais. Et c'est d'un niveau tout à fait honorable et tout à fait jouable, on va dire. C'est-à-dire que tu vas jamais pester sur la qualité graphique. Quoi. C'est quand même très immersif.
C'est surtout qu'esthétiquement, c'est prodigieux. C'est-à-dire que là, il n'y a pas un couloir qui est le même.
Voilà,
c'est très torsadé, très organique.
Toutes les planètes sont évidemment très différentes, comme d'habitude. Mais à chaque fois que tu arrives sur une planète, tu te rends compte qu'au niveau... au niveau direction artistique ouais. ils ont fait un boulot magnifique parce que il y a du chant, tu vois des trucs différents partout, vraiment c'est super immersif.
Il y a aucun endroit copier-coller, quoi, clairement c'est vraiment à chaque nouveau pas, c'est une découverte visuelle
et une fois de plus, donc comme on disait tout à l'heure, les musiques sont super bien aussi,
très minimaliste,
c'est minimaliste, il y a des passages un tout petit peu plus c'est atmosphérique, c'est vraiment
puis l'intro est génial aussi,
c'est un jeu très immersif, pas surprenant en dehors de la jouabilité. Mais il y a quand même des niveaux excellents où tu te balances
balance-toi, comme dirait Tony Parker.
Et puis voilà, quoi. Donc c'est tout à peu près ce qu'il faut savoir sur. J'ai pas parlé de l'hyper mode, c'est la nouveauté de cet épisode, c'est-à-dire que tu peux passer en hyper mode en appuyant.
Bien que l'hyper mode.
Voilà, au niveau jouabilité, il y a un truc qui est pas super bien branlé, et c'est à cause de la Wiimote, c'est-à-dire que les boutons plus et moins, qui sont vachement plus bas que le bouton A qui sert tout le temps, sont mis à contribution très souvent. Alors il y en a un qui sert à scanner. Et l'autre qui sert à passer donc en hyper mode.
Ouais.
Et l'hyper mode, c'est un mode où tu deviens invincible en fait, et où tu bastonnes à mort. Mais tu peux, si tu l'utilises trop, être corrompu. Et à ce moment-là, il faut vider ta jauge, etc. Enfin, c'est un nouvel élément de gameplay.
Voilà, révélation.
Brainstorming, attention.
Superbe.
Voilà. Alors, j'ai peut-être fait un petit spoiler, certes. Bon, en même temps,
ça va.
Non, après, au niveau du scénario, évidemment, je ne dévoilerai absolument rien.
Il y a des pirates de l'espace ou pas ?
Voilà, peut-être, cool. Peut-être bien.
Et je crois d'ailleurs que même c'est le retour un peu de Mother Brain, apparemment, qui serait.
Je ne dirai rien, je t'ai dit. Ouais, je crois
qu'on l'a vu. Disons que pour ceux qui sont vraiment fans de la série, sur quelques vidéos,
ils achèteront le jeu, puis ils y jouent.
On aperçoit des choses.
Et puis ils feront comme dans tous les épisodes Prime, c'est-à-dire qu'ils vont scanner tout à droite à gauche, parce que tu peux découvrir des éléments scénaristiques. débloquer aussi, tu débloques des espèces de petites récompenses. Après, tu as un menu bonus dans le jeu. Et il y a certaines récompenses que tu peux avoir seulement en récupérant des friend vouchers. Donc, c'est-à-dire des, voilà, c'est, en gros, tes potes débloquent des trucs, ils te les envoient par, par la connexion internet. Ouais. Et toi, tu peux utiliser ces trucs-là ensuite pour débloquer des bonus. Il y a des trucs rigolos. Là, pareil, je dirais pas tout, mais en gros, tu peux rajouter des stickers sur, sur le vaisseau, tu peux faire des trucs rigolos. Quoi.
Parce que ce qui est intéressant dans les Metroid Prime, en tout cas depuis l'épisode GameCube, c'est que, on va dire que plus de 50% du scénario et de toute l'histoire se découvre justement en allant fouiner à droite à gauche, scannant des objets, des ordinateurs éteints, des maps, et pas tant dans les cutscenes qui sont généralement assez succinctes.
Ouais, ouais, c'est vraiment.
Où Samus ne parle jamais,
non, non,
on
n'a
jamais
pas
entendu sa voix, de toute manière, c'est un peu comme Jack.
Elle est blonde en même temps, hein, si elle parlait, ça poserait peut-être des problèmes, non ?
Je ne sais pas, il y a des blondes qui parlent et qui peuvent dire beaucoup de choses, enfin bien utiliser leur bouche en tout
mais
cas.
Mais tu as quand même des cinématiques où tu vois les autres personnages, les autres hunters, etc., qui causent. Enfin, il se passe des trucs évidemment, ouais. Mais effectivement, Samus ne parle pas, et puis quand elle est mise en scène, c'est vraiment genre elle arrive dans une pièce, et puis il y a la caméra qui te fait découvrir un peu la pièce, etc.
Ouais, c'est une cruche quoi.
Elle a toujours l'air un peu à l'ouest, genre. Mais qu'est-ce qui m'arrive ?
Non, en fait, elle a une voix de merde, voilà, c'est tout.
Voilà, c'est pour ça que Nintendo n'a pas voulu la faire
et
causer.
Donc juste dernier petit point, donc on parlait des modes multi, il y a pas de mode multi dans cette édition Wii. On en avait parlé plus ou moins sur Gameblog, ils avaient plus ou moins annoncé qu'ils comptaient l'abandonner, qu'ils préféraient se concentrer, retarder le jeu, etc. Bon bref, et ça a été abandonné, il y a pas de multi quoi.
Il y a pas du tout de multi.
Non, il y a pas de multi.
Même en réseau local.
Non, il y a rien.
Rien, que dalle, que chi, pouic, ouais, nada, stop.
Voilà.
On s'en fout.
Bah ouais, franchement, non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Voilà, quoi. Si ton expérience solo, déjà qu'il y a un jeu solo sur Wii vraiment bien et vraiment intéressant.
Bah oui, c'est ça qu'on a pas dit finalement.
Enfin, tu vois, il faut être content qu'on va pas se mettre à gueuler parce qu'il y a pas de multi.
Ouais, c'est un jeu clairement gamer, quoi.
Non, puis c'est cool pour les gens qui ont pas d'amis en plus, ils se sentent moins exclus, quoi.
De toute façon, déjà, un jeu où tu dois passer ton temps à scanner tout pour en tirer la substantifique moelle, c'est un gros jeu de nerd, quoi.
C'est un jeu de gamer quoi. Voilà.
C'est un pur jeu gamer. Ça fait du bien d'en voir débarquer sur Wii. Parce
et c'est super long. Je le dis d'avance. Le jeu est bien long et tout. Enfin, on peut pas être déçu à ce niveau-là quoi.
D'accord.
On voit du paysage.
T'en prendras pour $1.
Voilà.
Donc une future valeur sûre de la Wii.
Sans aucun doute.
En tout cas pour les gamers.
Attention Julou, tu t'engages donc. Tu t'engages personnellement.
Voilà, je signe avec mon sang.
Est-ce qu'il est Gameblog approved?
Approved.
Seal of quality?
Yes. The official one.
Ah bah dis-moi, ça donne envie. Le test pour quand?
Il sera à l'heure. Comme tous les tests sur Gameblog. non, il
se perdra peut-être du côté de la planète SR388. Hein.
Non, il sera à l'heure, c'est sûr.
Bon bah super. Bon bah voilà, c'était un peu ce qu'on pouvait dire sur la saga Metroid, une saga qui a donc 21 ans désormais et qui
mon Dieu,
qui vit bien
une
avec
majorité américaine.
Voilà, Samus qu'on retrouvera dans le prochain Smash Bros. Smash Bros. Brawl.
Ouais.
Aussi donc sur Wii, dans lequel on a appris, c'est désormais officiel que Sonic sera aussi de la fête. Hein. Donc voilà, Samus c'est un personnage qui vit bien, qui a bien lustré son armure et qui traverse les époques, les styles de jouabilité et les styles graphiques avec nonchalance mais néanmoins classe, donc c'est à peu près c'est un jeu qu'on aime bien, une série qu'on affectionne,
voilà
et ça nous faisait plaisir de lui rendre hommage à l'occasion de la sortie de Metroid Prime 3 Corruption le 26 octobre 2007. J'ai l'impression de faire de la pub, non, c'est juste qu'on est content qu'il y ait un bon jeu sur Wii en fait.
Ouais.
C'est surtout ça,
c'est une sorte d'événement quand même.
Et puis,
voilà.
et puis Metroid, voilà quoi, je pense que personne ne peut avoir rien, enfin personne ne peut gueuler sur Metroid, quoi. C'est une série un peu intouchable.
C'est une petite pierre angulaire de l'histoire des jeux vidéo.
Qui suit l'histoire des jeux vidéo, qui a contribué, qui continue. Et je sais plus quoi dire.
Mais en tout cas, non, mais clairement, mais la série Metroid Prime, on va dire, donc le. Ça marche bien parce que c'est quand même très rare que Nintendo prolonge sa collaboration avec des associés occidentaux extérieurs, même s'ils le font de plus en plus. Hein, on l'a vu avec Mario Soccer,
si l'appellation FPA machin, c'est quand même super marketing. Finalement, c'est peut-être le seul jeu en 3D en vue subjective qui a ce type d'équilibre et de mécanique de jeu entre un peu de plateforme, un peu d'action, un peu de puzzle, etc. Enfin, moi, j'en vois pas d'autres qui ressemblent à ça, en fait.
Et puis un jeu de tir, pas fondamentalement bourrin, finalement, ça nous change aussi, quoi. Ouais. Donc, un jeu qui fait la part belle à la découverte et à l'exploration.
Et à l'immersion.
Et à l'immersion, mesdames et messieurs. Donc, voilà, ça nous fait plaisir. Bon ben voilà, il nous reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Vous allez pouvoir éteindre vos baladeurs MP3, vos iPods ou les enceintes de votre PC, passer à autre chose, comme aller surfer sur le site de gameblog.fr ou bien participer au grand challenge de la mini-ville, car ça y est, nous sommes dans le top 3 et nous sommes à une poignée, quelques encablures de la domination mondiale. Enfin, surtout de l'Île-de-France pour l'instant. Mais en tout cas, un grand merci à tous ceux qui passent leur journée, leur nuit, à chercher des proxys et autres. Bon, on n'en dit pas plus. Courage, parce que les prochaines heures risquent d'être chaudes, vu le nombre de missiles qu'on se prend sur la gueule. Mais ça, c'est quelque part la rançon du succès. Donc voilà, on vous remercie tous. On vous dit à la semaine prochaine, à mercredi prochain, pour un nouveau podcast sur gameblog.fr. Ciao, ciao.
Salut.
Salut.
Cheers.